All right, cette semaine dans l'épisode, on veut parler, on a notre invité Félix-Antoine, que vous avez peut-être déjà entendu dans un autre épisode. Aujourd'hui, Antoine, qu'est-ce que tu voulais qu'on aborde avec Félix?
Ouais, je voulais qu'on aborde avec Félix comme son point de vue, à savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le monde de l'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, on s'en va dans un gym commercial, tout le monde sait que dans un gym commercial, des fois, ça s'entraîne plus ou moins bien. Il y a peut-être des choses qu'on fait comme au niveau des techniques d'entraînement qui sont moins bonnes, au niveau de la biomécanique qui sont moins bonnes. Et donc, j'aimerais ça qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui est possible de faire pour vraiment améliorer le monde du fitness, finalement, au Québec puis dans la francophonie, selon Félix?
Donc, juste avant qu'on débute, c'est important, soyez attentifs. Le but du podcast, c'est de vous donner des tips le plus possible pour que vous puissiez vous améliorer. Ça se peut que vous nous écoutez, vous n'êtes pas coaché, rien là, par qui que ce soit, puis c'est bien correct. Mais au moins, vous pouvez vous servir de ce podcast-là pour aller chercher des trucs pour juste améliorer vos trainings. Donc, Félix, quel genre d'erreur que tu vois le plus souvent dans les gyms?
La première erreur ou la chose qui me frappe le plus quand je vois, c'est les gens qui vont se créer des douleurs parce qu'ils sont mal, les exercices sont mal, le setup d'exercice, l'exécution de l'exercice est mal fait. Celle qui me frappe le plus souvent, qu'on voit le plus plus régulièrement, c'est au niveau des câbles, souvent. Les gens ne vont pas enlier le câble ou la tension musculaire avec justement le muscle qui va être visé. Exemple au chest. Souvent, on va voir, c'est bien populaire ces temps-ci, faire du cable press au poulie parce que les gens voient ça sur les réseaux sociaux. Ils se sont fait dire que c'est plus efficace que des dumbbells, ce qui est une bonne chose jusqu'à un certain point. Mais les gens, ce qui va arriver souvent, c'est qu'ils vont avoir les coudes trop bas, les coudes trop hauts, ce qui va faire en sorte qu'ils vont mettre plus de tension dans leurs articulations, dans les tendons des muscles, que sur le muscle visé. Ce qui va faire en sorte qu'à la longue, ils vont peut-être se créer des petites douleurs.
Je trouve ça bon que tu parles de douleurs parce que des fois, j'ai l'impression que c'est aussi une raison pourquoi que la ceinture est autant utilisée dans les gyms. Mm-hmm. Dans le sens où c'est facile de faire « Ah, ben là, j'ai fait tel exercice, ça m'a fait mal dans le bas de dos, fait que je mets une ceinture. » Mais le problème, si on va à la racine du problème, c'est pas de mettre une ceinture qui va... Mais c'est plus de corriger ton exécution, finalement.
Oui, effectivement. Mais surtout, tu sais, quand tu parles de ceinture, si on parle, par exemple, d'un mouvement de squat ou d'un mouvement de back squat ou un deadlift, un rack pull, des choses comme ça... Bien, les gens ils vont penser qu'il y a plus de poids, au yable la technique, on va juste lever plus de poids, ça va donner plus de résultats. Mais tu vas les voir avec des dos de chat, tu vas les voir avec des squats où est-ce qu'ils sont quasiment rendus en pancake, là, en crêpe, dans le bas du mouvement. Puis là, ils pensent qu'en mettant une ceinture, ça va venir patcher, excuse-moi l'expression en anglais, là, ça va venir patcher un peu leur mouvement. Mais comme tu dis, ça va juste créer une béquille, puis il faut faire en sorte que si à un moment donné, ils ne l'utilisent plus, bien, ils vont se rendre compte qu'ils sont... Ils vont se blesser ou ils vont penser qu'ils ne seront pas capables de faire le mouvement, alors qu'au final, si tu fais juste diminuer ton poids, améliorer ta technique, mieux aligner tes genoux, tu vas avoir les genoux qui vont rentrer en dedans sur un squat, des choses comme ça, bien, si tu les laisses à la bonne place, tu vas avoir autant de résultats, tu vas aller chercher un recrutement qui va être aussi bon. Puis en plus de ça, bien, tu vas utiliser une charge qui va être beaucoup moins élevée, qui va donner, comme je disais, le même résultat, mais tu vas limiter tes risques de blessures ou de complications, tu sais, des douleurs aux genoux, douleurs aux épaules, douleurs aux coudes, douleurs aux poignets, peu importe le mouvement. Ça peut être une des raisons principales qu'un mouvement qui est répété de la mauvaise façon très, très longtemps va faire en sorte que bon, ça va nous créer des douleurs ou des problèmes. Là.
Puis juste pour que tout le monde comme saisisse qu'est-ce que tu viens de dire, c'est que dans le fond, on n'a pas besoin de faire des hautes répétitions nécessairement. Le but, c'est comme exemple, parce que souvent j'entends dire que faut faire faut pas faire des basses répétitions si on est plus prompt aux blessures, par exemple. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de dire finalement, c'est comme OK, c'est pas les nombres de répétitions finalement ou la charge qu'on va prendre, c'est plutôt l'exécution d'exercice qui va faire une différence. Parce qu'on s'entend que en musculation, ça va être le sport le plus sécuritaire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que tu bouges de façon unilatérale souvent, dans un plan de l'espace. Il n'y a pas de changement de direction, il n'y a rien. Tu es super stable. Donc, c'est un peu ce que tu dis finalement.
Exactement. Ben, tu sais, ils vont avoir le même nombre de résultats, puis ça va être une charge qui va être moins élevée, mais c'est vraiment l'exécution du mouvement qui va amener une progression beaucoup plus intéressante que si on va avec la charge en général. C'est là où est-ce que les gens mettent leur exécution de côté, vont rentrer un petit peu plus d'ego, va faire en sorte qu'à la longue, ben, ils vont avoir des blessures, puis ils vont se blesser. Parce que justement, c'est mal exécuté. Les mouvements, quand ils sont bien exécutés, ils ont été pensés. Ça fait des années que les gens s'entraînent. Ça a été corrigé. Il y a eu des analyses, des études qui ont été faites. C'est pas normal que tu te blesses en faisant une machine, hack squat, par exemple. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle tu t'es fait mal au genou, tu as mal au genou en le faisant. C'est peut-être ton exécution qui va être à revoir. Corrige ton exécution, puis tu vas te rendre compte que ah, je suis pain-free, puis ça va être pas mal plus plaisant parce que tu vas aller au gym, puis tu n'auras pas toujours mal. Ou tu vas pas te prendre 3 heures à te réchauffer, ou tu vas pas être obligé de te mettre des sacs de glace sur les articulations quand tu vas t'en aller du gym. Puis ça va être aussi efficace, ça va vraiment être l'intention de mouvement puis l'exécution qui va être plus important que la charge en tant que telle.
Mm-hmm. Puis c'est sûr que tes tips pour justement améliorer notre exécution à travers l'entraînement, tu sais, y a-tu des trucs que tu peux dire en général, comme si vous faites ça, ça va bien aller, puis en général, ça va être...
Mais le truc que moi, j'aime penser quand je fais une exécution de mouvement, je veux que si je filme mon mouvement, je veux que la première répétition, elle soit identique à la dernière. Même que la dernière qui va souvent être proche de l'échec musculaire, des choses comme ça, où est-ce que les gens commencent à avoir plus de difficultés. Mais si la dernière répétition est aussi belle que la première, ton exécution, ça veut dire qu'elle est à la bonne place, il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu de compensation non plus quand tu vas le faire. C'est une bonne façon de progresser. Surtout que les trépieds sont très, très populaires ces temps-ci dans les gyms. Les gens se filment pour les réseaux sociaux, pour leur plaisir personnel, pour pouvoir se corriger. Mais c'est sûr et certain que ça soit une copie conforme de la première à la dernière répétition, ça va être une bonne chose. S'assurer qu'à chaque fois qu'on progresse de charge, qu'on ne mette pas l'exécution de côté parce qu'on rajoute la charge.
Mm-hmm.
Fait que c'est vraiment continuer de la même façon, garder toujours la même exécution. Évidemment, mettre l'intention de mouvement dans le bon muscle. Si tu sens le bon muscle travailler, c'est un autre bon indice aussi que tu fais ton mouvement de la bonne façon puis tu vas pouvoir progresser sans douleur.
Puis là, Félix, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment on peut faire. Exemple, j'arrive dans un gym, je suis débutant, je ne sais pas trop comment exécuter un mouvement. Mettons, on va prendre le row. Qu'est-ce qui peut être difficile parce que finalement, on peut travailler le lats, on peut travailler l'upper back, on peut travailler à la limite le biceps aussi. Donc, j'aimerais ça, mettons, tu m'expliques vraiment c'est quoi concrètement dans le gym qu'on peut faire. Exemple, je travaille mon lats sur un row, c'est quoi les cues qu'on pourrait mettre en place pour vraiment bien sentir puis vraiment bien travailler le muscle?
Parfait. Bien, c'est sûr que pour les exercices de dos en général, c'est toujours penser de tirer à partir du coude. Le truc que je peux donner, c'est penser qu'il y a une ficelle qui est attachée en arrière de ton coude puis on tire sur la ficelle. C'est vraiment le coude qui va initier le mouvement. Ça peut être le premier truc que je peux donner. Pour un lat, par exemple, un lat row, ben, on va penser à abaisser l'épaule en tirant puis en pensant à amener le coude vers la hanche quand on va tirer. Vraiment s'assurer d'abaisser l'épaule pour bien sentir son lat. Autre chose qui va être important aussi, on veut s'assurer que notre coude ne dépassera pas le torse. Si on dépasse notre torse, on va peut-être transférer la tension un peu plus dans notre upper back et des choses comme ça. Fait que si on veut travailler notre lat, on s'assure d'abaisser notre épaule en tirant. Je peux avoir de le faire en deux mouvements, vraiment en tirant, on abaisse notre épaule, puis on pense à amener notre coude un peu comme dans notre poche arrière de pantalon. Sans dépasser notre torse, ça pourrait être une bonne façon. Donc, c'est sûr qu'on va sentir notre lat dans cette façon-là. On va faire travailler les deux fonctions du lat.
Tu sais, des fois, tu dis débutant, Antoine, mais honnêtement, il y en a qui pensent qu'ils sentent leur lat. « Oh, ouais, je le sens. Non, je le sens bien. » Là, on arrive avec ces cues-là, on abaisse les épaules, on amène le coude jusqu'à la hanche. Puis même, j'aime ça en plus donner comme le petit truc de ramener ton coude un peu vers l'intérieur à la fin. Puis là, ils sont comme « OK, non, je le sentais pas pantoute dans le fond. » Là, comme ils viennent de découvrir leur lat pour vrai, pour la première fois. Puis là, je parle à des clients qui étaient quand même, ils avaient une bonne shape, là, puis tout. Mais là, whoop, là, le Mind Muscle Connection vient... C'est fou, les rows, comment est-ce qu'on a... ça fait une grosse différence.
Ah, mais c'est fou, parce que tu peux faire ton row comme de plein de façons, tu sais. Exact. C'est souvent l'erreur qu'on voit, c'est vraiment la personne va s'installer, puis qu'est-ce qui est facile, c'est juste d'amener la main à l'épaule. Donc, la personne va tirer de la main à l'épaule. Mais là, c'est pas ça que tu veux travailler. Ça, c'est du bicep. Nous autres, on veut travailler, par exemple, les lats. Donc, c'est important que, tu sais, pendant le mouvement, comme Félix l'a dit, on veut vraiment que l'avant-bras soit tout le temps parallèle au sol, tu sais, pour justement pas engager le bicep dans notre row. Puis après, ça, on amène le coude vers la hanche, tu sais. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir maximiser vraiment le lat.
Tu sais. Fait que, tu sais, quand même que vous soyez intermédiaire, débutant, avancé, prenez les trucs de Félix. Vous pouvez même reculer le podcast puis aller réécouter les trucs qu'il vient de dénoncer. Appliquez ça au gym, puis c'est clair, vous allez voir une différence. Ça peut juste vous aider à mieux sentir. Vous sentez vos lats.
Mm-hmm.
Puis si on continue, mettons, d'autres exercices qui sont des fois comme... que je vois dans les gyms commerciaux qui pourraient juste être mieux exécutés, comme ça, la personne pourrait mieux sentir leurs muscles. Par exemple, style right cable crossover. Pourrais-tu juste comme décortiquer, dire c'est quoi premièrement un right cable crossover? Il y en a peut-être qui font comme quoi ça, puis expliquer peut-être des tips aussi pour mieux sentir.
Bien sûr. Ben, right cable crossover, on parle de mouvement où est-ce qu'on va avoir les poulies dans le haut. Un stack de poulies, là, de deux poulies ensemble qu'on va mettre. La poulie va être dans le haut, puis on va venir s'avancer, puis on va venir un mouvement de fly, dans le fond, vers le bas un peu. Les gens vont venir sentir leur chest de cette façon-là, ben, si tu le sens, évidemment. Le truc que je pourrais... La première chose qu'on va s'assurer de le faire en faisant ce mouvement-là, c'est pas de reculer trop loin en faisant le mouvement. Souvent, les gens ont l'impression qu'en faisant leur crossover, ils vont remonter vraiment jusqu'en haut de la poulie, dire « Ah, je sens vraiment mon chest va s'étirer ». Ce que ça va faire souvent, c'est qu'ils vont perdre la tension dans leur pec. Ils vont transférer ça peut-être au niveau d'une autre articulation, de leurs épaules. Fait que ça va être la première des choses, s'assurer qu'on ne va pas trop loin. Comment savoir si c'est trop loin, trop proche? Bien, c'est sûr et certain qu'on peut faire le test en faisant le mouvement, pas nécessairement avec une charge élevée, mais il y a un certain moment où est-ce qu'on ne serait plus capable de contracter notre chest à ce moment-là. Fait que c'est de revenir juste un peu avant ça. pour pouvoir faire le mouvement. Puis c'est aussi de s'enligner avec la fibre du pec qu'on veut travailler. Tu sais, vraiment, si on regarde de côté un crossover, on va vraiment s'enligner du haut vers le bas. Fait que c'est s'assurer de penser à s'en venir dans le même axe que notre fibre de pectoraux qui va être de haut vers le bas. Ça peut être le deuxième truc. Puis surtout, s'assurer de penser à rentrer le bicep dans le pec et non ramener les deux mains ensemble. Souvent, tu vas voir des gens qui vont faire des caresses, que j'appelle comme ça, là, ouais. C'est en avant, qui vont juste ramener leurs deux poings ensemble, alors que tout ce qu'on veut penser à faire, c'est rentrer vraiment notre bicep dans notre pec pour vraiment sentir une bonne contraction musculaire. Là.
C'est ça que j'aime ça dire aussi, sors le chest.
Ouais.
Parce que souvent, en sortant le chest, c'est en arrière que ça vient stabiliser.
Mm-hmm.
Mais là, des fois, hey, stabilise tes omoplates. Sors le chest, puis des fois, le travail se fait bien. Puis j'aime ça, exactement ça. C'est un excellent truc aussi là, de penser à coller le bicep sur le chest pour bien le sentir. Puis là, je vais élever le volume, pas le volume, mais le niveau aussi de difficulté d'exercice. Un exercice qui pourrait être une bête noire, entre guillemets, là. Le rowing and deadlift.
Mm-hmm.
Ça, c'est un exercice avec les clients. Souvent, on faut le repasser souvent parce que. Puis moi le premier, là, je me rappelle parce que, comme toi, j'étais client aussi avant même de travailler chez Quantum. Et que je l'ai regardé souvent avec Jacob, cet exercice-là. J'étais pas sûr, je le sentais pas bien dans mes ischios, ça me faisait mal au bas de dos. Fait que ce serait quoi les. Premièrement, c'est quoi cet exercice-là? Comment est-ce qu'on l'exécute? Puis les tips après.
Ben, rowing and deadlift, ou j'aime aussi dire le deadlift jambes tendues, là. Ça, souvent, j'ai vu souvent, c'est un mouvement où est-ce qu'on va faire un deadlift, mais on va pas plier nos genoux. Fait que souvent, les gens l'appellent le deadlift jambes tendues, Romanian deadlift. Ça se ressemble beaucoup là, au niveau du nom. Mais le truc que je peux donner ou la manière de l'exécuter, moi, ce que j'aime faire, c'est le décortiquer. C'est vraiment un mouvement de la hanche, dans le fond, de flexion, d'extension de la hanche. Fait que je pourrais dire, je dis souvent à mes clients, je pourrais vous couper au milieu du torse, puis le mouvement pourrait s'exécuter quand même. Dans le sens où est-ce que les gens, souvent, ils vont penser à descendre la charge nécessairement très, très bas, au lieu de penser à reculer leurs fesses vers l'arrière. Ce qu'on veut faire dans ce mouvement-là, c'est vraiment pousser les fesses le plus loin possible en arrière, pas descendre la charge le plus bas possible. Le cue visuel, le truc visuel que je peux donner aux gens, c'est de penser qu'ils veulent vraiment fermer une porte avec leurs fesses, un peu comme si tu avais les mains pleines de sacs d'épicerie ou quoi que ce soit, puis tu voudrais fermer une porte ou une porte d'auto, mais tu pousses les fesses vers l'arrière vraiment pour donner un coup, si on veut, pour fermer la porte. C'est le meilleur truc. On pousse les fesses le plus loin possible en arrière. Il va venir un moment où est-ce qu'on ne pourra plus reculer les fesses, là. Si on va continuer à reculer, c'est le dos qui va descendre. Fait qu'on recule les fesses. Quand on n'est plus capable de reculer les fesses, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a atteint le bas du mouvement. Puis en remontant, on va penser à pousser les hanches le plus fort possible vers l'avant pour remonter la charge. En gardant évidemment les genoux le plus tendus possible, on ne veut pas que les genoux plient à aucun moment du mouvement. On veut vraiment les garder. Ben, pas plier. On peut les plier une petite affaire. Là, on ne veut pas avoir les genoux barrés. Mais vraiment s'assurer que les genoux plient le moins possible.
Ah, c'est vrai ça, parce que c'est pas nécessairement qu'on remonte vers le haut, mais le fait qu'on ramène la hanche vers l'avant fait que le tronc se remonte, tout simplement. Fait que c'est de penser, j'aime ça, comment tu dis ça, c'est vraiment de penser que c'est un mouvement d'arrière vers l'avant et non d'en haut en bas. Ça fait une grosse différence, définitivement.
Puis un point technique aussi qu'on peut ajouter comme au niveau des jambes. Donc c'est bon, comme tu as dit le truc, dans le fond, de se filmer tantôt, mais comme se filmer au niveau des vidéos d'exécution, ça peut être super intéressant. Puis quand on se filme de côté sur le RDL, qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment que le tibia soit perpendiculaire au sol. Si vous reculez les fesses, puis le tibia, vous voyez qu'il cante vers l'arrière. Donc, vous shiftez votre poids trop vers l'arrière. Et donc là, vous réduisez la tension dans l'ischio. Donc, c'est important que quand vous poussez la hanche vers l'arrière, le tibia reste perpendiculaire au sol. Donc, c'est un point cue visuel aussi que vous pouvez déterminer pour vraiment améliorer la tension finalement que vous générez dans, par exemple, l'ischio jambier. T'sais.
Puis, y a-t-il un autre exercice, toi, Antoine, que tu as vu dans les gyms qui pourrait clairement mieux être exécuté?
Mm-hmm. Ben, tu sais, dans le fond, les exercices, là, clairement, que c'est tout le temps, tu sais, avec la poulie, là, je vois tout le temps ça, des trucs, souvent le monde vont bander avec la poulie, comme les triceps push down, les curls, les crossovers, les chest, les rows, tous les trucs avec la poulie, je trouve ça incroyable à quel point c'est mal fait, le positionnement est mal fait aussi, donc je pense qu'on peut vraiment, comme, je sais pas si Félix, t'as vu ça dans un gym commercial aussi, parce que je sais des fois, tu t'entraînes pas juste chez Quantum, là, mais tu sais, je sais pas si t'as déjà vu des exercices qu'on peut améliorer finalement. Au niveau des poulies, parce que moi, je vois tout le temps ça à chaque fois qu'ils ont dit que ça. Ou genre, tu sais, le lat pull down, c'est fou. Là.
Ben, le push down, le tricep push down, là, c'est un des mouvements que je vois qui est le plus botché. Pourtant, mm-hmm. c'est un mouvement qui, à la base, semble simple, mais les gens vont souvent, comme tu dis, bouncer ou donner un coup avant de faire le mouvement. Ou sinon, ce que je vais voir souvent, ils vont se pencher bien gros par l'avant. Ils vont servir de leur contrepoids du torse pour pouvoir venir descendre la charge. Et évidemment, ben, l'autre chose que je vois, c'est qu'ils vont pas venir barrer le coude aussi. Ils vont mettre lourd, ils vont juste finir un peu le coude pas barré en bas du mouvement, puis en mettant leur torse vraiment penché vers l'avant. va faire en sorte que c'est quasiment le contrepoids de leur corps qui va les aider à bouger. Alors que si on les fait vraiment se mettre droite, les coudes vers l'arrière, qui ne bougent pas, c'est vraiment juste une extension du bras, on va avoir autant de recrutement du triceps, puis le poids va diminuer aussi. Ça peut être un autre exercice qui est très, très mal exécuté en tant que tel. Même chose avec le curl. Si on parle des bras, là, on a le triceps, mais on peut avoir un curl à la poulie standard. T'sais, les gens vont bouger les coudes, les gens vont se donner un swing, un peu comme avec une barbell, mais on dirait qu'avec une poulie, c'est encore pire. Puis, étant donné que la poulie va les tirer un petit peu vers le bas dans un axe fixe, quand ils vont vouloir remonter, ils vont se donner un coup vers l'arrière. Puis ils vont swinguer, puis sinon les coudes vont vraiment beaucoup avancer vers l'avant, ça va quasiment être rendu, la barre va être rendue jusqu'au front, là. C'est pas vraiment utile. Là.
C'est ça quoi ton truc pour vraiment améliorer, comme par exemple les curls à la poulie? T'sais, parce qu'on s'entend que finalement pour ta biceps, c'est juste une flexion du coude.
Ben, c'est sûr de garder les bras de chaque côté du corps qui bougent pas. C'est vraiment de penser que la fonction qu'on veut travailler, c'est une flexion du coude. Donc, tout ce qui va se faire autre qu'une flexion du coude, ça va être inutile, ça va créer de la fatigue ou ça va transférer la tension en mauvaise place. Vraiment mettre les coudes, penser qu'ils sont driller dans le ciment ou driller sur le bord de notre corps, vraiment s'assurer qu'on vient penser à amener l'avant-bras vers le biceps et non pas monter le bras vraiment vers la face ou vers le front en tant que tel, ça peut être une bonne chose. Puis de contrôler la charge de haut en bas aussi. Souvent, les gens vont aller en concentrique, mais en excentrique, ils vont laisser la charge tomber. Puis là, ça va bouncer en bas, ils vont se donner un momentum puis ils vont remonter aussi. C'est vraiment contrôler la charge à chaque moment du curl. Je pourrais demander à la personne d'arrêter le mouvement parce qu'elle est capable de la contrôler. Ça peut être un bon truc aussi pour s'assurer que notre exécution est A1.
Rentrer de la contraction volontaire, je trouve ça quand même assez important dans le bas du mouvement, de penser à, par exemple, sur un curl, contracter le bicep, puis après ça, faire ton curl. Ça a une grosse différence aussi au niveau du ressenti.
Bien, l'intention de mouvement, c'est toujours très, très important. Peu importe le mouvement, on parle des bras, mais que ce soit des quads, exact, ou quoi que ce soit. Là.
Si on s'entend pour gagner l'hypertrophie, pour faire l'hypertrophie, ça prend deux choses. On a besoin de recrutement d'unité motrice, donc le plus possible de fibres musculaires sont activées. Donc ça, on peut faire ça volontairement. Fait que plus vous allez penser justement à contracter votre masse musculaire, plus vous allez recruter des unités motrices, donc le nombre de fibres musculaires que vous engagez. La deuxième chose qu'on a besoin, c'est de la tension mécanique. Donc ça prend une certaine charge, mais de façon contrôlée. Donc si vous n'arrêtez pas de bouncer votre mouvement, comme par exemple au niveau de la poulie, il y a un certain moment donné, vous allez éviter d'avoir la tension dans le mouvement. Donc ça vous éloigne complètement de votre objectif de l'hypertrophie. Donc, c'est important de maximiser la tension musculaire dans tout le temps de l'exercice et justement de mettre la plus d'intention possible pour faire le mouvement avec le muscle qui est ciblé. Là, t'sais.
Ouais, t'sais, c'est tellement vrai. Puis c'est drôle parce que, comme avec Philly, on parlait de ça à un certain moment donné. Puis c'est un gars qui a appris à tellement bien sentir ses muscles.
Mm-hmm.
Fait qu'en sentant bien ses muscles, en faisant des bonnes contractions, le recrutement d'une motrice y est encore plus augmenter là, finalement, fait que définitivement que ça l'aide dans l'hypertrophie. Puis tu demandes à Philippe, tu sais, oui, il est fort, là, je veux dire, mon Dieu, c'est un gorille, tu sais, je veux dire, il est vraiment, c'est sûr qu'avec le temps, puis tout, il est devenu excessivement fort. Par contre, c'est pas le gars le plus fort du monde non plus, là. Absolument pas. Il s'entraîne intelligemment, il a toujours été reconnu pour ça, puis je veux dire, il a gagné 7 fois Monsieur Olympia aussi. Là. C'est un freak, je veux dire, quand je veux dire par freak, c'est quelqu'un qui a une génétique incroyable. Par contre, ça a un impact de s'entraîner intelligemment, là, tu sais.
Mm-hmm.
Donc,
pour avoir cette shape-là, là, il faut que tu sentes chacun de tes muscles, tu les sentes numéro un. Philippe, il a beau avoir une génétique, mais il faut quand même qu'il y ait son exécution pour qu'il sente chacun de ses muscles. Qu'est-ce que tu dis, exact, c'est 100% vrai, là.
Mm-hmm. Définitivement.
J'aimerais ça savoir, Félix, c'est quoi ton exercice préféré pour n'importe quel groupe musculaire? C'est quoi tes exercices que tu sais que c'est les meilleurs pour l'hypertrophie, attends, pour toi, là?
Ben, j'ai une belle relation amoureuse avec le hack squat, la machine hack squat.
C'est quoi la tune qu'il faut absolument que tu écoutes à toutes les fois que tu fais du hack squat?
La tune qu'il faut que j'écoute à toutes les fois, c'est drôle, mais c'est vraiment, c'est pas une rumeur. Hein. J'écoute ça sur repeat, j'ai une playlist dans mon téléphone.
Il y a juste tune là-dedans.
Exactement, puis sur, tu sais, la petite icône qui fait que ça rejoue sans arrêt, c'est Many Men de 50 Cent. Je sais pas pourquoi, c'est pas trop intense, c'est pas trop smooth, c'est juste assez, mais j'écoute ça sans arrêt. Fait que c'est vraiment une belle relation amoureuse. C'est très, très demandant, mais pour les quads, je trouve que c'est vraiment un exercice incroyable. T'es super stable, tu peux charger avec une bonne exécution, t'as pas de risque de blessure non plus. Celui qu'on a chez Quantum est assez demandant aussi. C'est un hack squat pour les hommes.
T'aimes-tu mieux avec ou sans bends?
Il y a un moment pour les deux, je te dirais, mais avec les bends, ça vient être intéressant parce que ça va vraiment piquer le mouvement exactement où est-ce qu'on veut le travailler, là, dans le mid en tant que tel. Mais sinon, que ça soit avec ou sans bends, je l'aime bien gros. Ça, c'est sûr et certain. Nice.
Excellent. Fait que ça résume un petit peu. J'espère que vous en ressortez avec beaucoup de valeur puis des choses que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui au gym pour mieux sentir vos muscles puis mieux exécuter les mouvements. Vous ayez moins de blessures, vous sentez mieux vos muscles, plus d'hypertrophie, juste des bonnes affaires finalement. Fait que merci de nous avoir écoutés. Puis si vous voulez nous faire un 5 étoiles sur Spotify, si ce n'est pas fait, partagez sur vos réseaux sociaux, envoyez un collègue, un ami, un cousin, n'importe qui, ça peut être, ça serait excessivement apprécié. Donc, merci de vos écoutes, puis on se parle dans un prochain épisode. Salut! Okay.